it's a love.
A to Z, The Pressure Drop, pour nous accompagner sur la route de Babylone, le rendez-vous des savoirs et de l'usage du monde. Alors, on va pas réellement abandonner l'esprit de List évoqué en première partie par le philosophe Bernard Sève, puisque nous allons nous pencher maintenant sur la très longue liste des maladies oubliées par l'industrie pharmaceutique.
Maladie médiatiquement sinistrée. Le paludisme concoctait jusqu'à récemment ces catastrophes humanitaires dans l'indifférence générale des nations industrialisées. 90% de ces victimes se trouvent en Afrique, où le paludisme fait plus de morts que le sida.
Nous sommes en Bolivie, ce patient a la maladie de Chagas. Cette maladie tue chaque année 14 000 personnes, 10 à 15 millions en sont atteintes. Cette maladie a été absente des programmes politiques et de recherche pendant des années.
Voilà, à mes côtés, Cécile Guérin pour recevoir Bernard Pécoul. Bonjour Bernard Pécoul.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes directeur de la fondation D&D pour Initiative, on va le dire comme ça, pour le traitement des maladies négligées. Donc négligées bien sûr par la recherche et par l'industrie pharmaceutique. Alors on va évoquer ensemble ce qui est un enjeu bien sûr de taille, hein, puisque ça concerne des millions de personnes qui sont victimes de par le monde de maladies qui font des ravages de façon silencieuse. Faute de traitements accessibles et novateurs. Bernard Pécoul, vous dirigez donc cette fondation, mais avant cela, vous avez fait partie des French Doctors de Médecins Sans Frontières. Vous avez été directeur de campagne pour l'accès aux médicaments essentiels. Donc, c'est une nouvelle étape que vous avez franchie il y a quelques années de cela, en concentrant donc vos efforts maintenant sur ces maladies dites négligées. Alors, justement, quelles sont ces maladies négligées, Bernard Pécoul ?
Écoutez, les maladies négligées sont des maladies qui touchent beaucoup de monde, mais qui se concentrent sur les populations les plus pauvres. C'est ça la caractéristique. Donc c'est, comme on l'a dit à l'introduction, c'est le paludisme, c'est la maladie de Chagas qui a été citée, mais c'est aussi bon la maladie de sommeil qui touche l'Afrique, la population en Afrique centrale, qui est une maladie transmise par la mouche tsetse, que les gens connaissent sans doute à travers les livres, les illustrés. Mais cette maladie-là, elle a pour caractéristique d'être létale à 100%. C'est-à-dire que lorsqu'on est atteint de cette
totalement
maladie,
handicapante.
Sans traitement, on meurt 100% des situations. Et c'est aussi le cas de la leishmaniose, qui là touche à la fois le continent indien, avec un gros foyer au nord de l'Inde, Népal, le Bangladesh, l'Afrique de l'Est et l'Amérique latine. Et là aussi, quand on est la forme viscérale de cette maladie, c'est une maladie 100% létale sans traitement.
Cécile Guérin, oui.
Bernard Pécoul, si on reprend l'exemple de la maladie du sommeil, une maladie sans traitement, et donc c'est la mort assurée. Vous, en 2009, avec l'initiative pour le traitement des maladies négligées, vous lancez un traitement à partir de deux médicaments qui ont déjà existants et vous l'avez couplé. Comment ça s'est passé réellement ? Comment vous fabriquez des médicaments qui pourraient soigner la maladie du sommeil.
Voilà, sur la maladie du sommeil, le seul traitement qui existait quand on a commencé, c'était l'arsobal, c'est-à-dire de l'arsénic. C'est un dérivé extrêmement toxique. Quand on l'utilise, on tue un patient sur 20 à cause de la toxicité. Mm-hmm. Donc ça, c'était... Et ça, c'est mon point de repère par rapport à mes 20 ans passés à Médecins Sans Frontières. On trouvait inacceptable de continuer à injecter de l'arsénic pour traiter une maladie infectieuse. Donc on a cherché qu'est-ce qui pourrait remplacer ce médicament. Et pour ça, on a pu trouver deux médicaments. L'un qui a été développé dans le domaine de la cancérologie, c'est l'eflornithine, et qui a été documenté comme efficace contre la maladie du sommeil, et l'autre qui a été développé par Bayer en Allemagne, essentiellement pour la médecine vétérinaire ou pour la maladie de Chagas, mais qui aussi présentait un intérêt pour la maladie du sommeil. Donc on a décidé de combiner les deux. Donc on a fait des études précliniques d'abord, puis après on a fait des tests cliniques en Afrique
centrale.
Et dans
quel cadre
En Afrique centrale, essentiellement au Congo, enfin les deux Congo, la République démocratique du Congo, le Congo Brazzaville, donc dans des contextes extrêmement difficile, mais tout en respectant les règles de bonne pratique clinique, les règles d'éthique, afin d'avoir des résultats qui permettent de démontrer l'efficacité. Et ensuite, après, on a présenté ces résultats à l'OMS, qui les a prouvés, et maintenant, ce nouveau traitement est utilisé sur le terrain.
Et coûte combien ?
Alors ce médicament, ce traitement coûte rien en population, parce que dès le début, avec l'OMS, on a négocié l'accès à ces médicaments qui étaient vraiment abandonnés, et les laboratoires acceptaient de le mettre gratuitement.
Voilà, donc c'est ça aussi, un des enjeux, c'est la gratuité pour l'accès.
Alors la gratuité, ou au moins un prix symbolique, tout à fait abordable. Parce qu'il ne faut pas non plus imposer des critères qui découragent les partenaires de rentrer dans une telle aventure.
Mais en même temps, sur la maladie du sommeil, c'est encore un traitement assez lourd, puisqu'il faut injecter, donc vous cherchez toujours déjà un prochain médicament à développer.
Voilà, donc ce premier traitement, appelé NEC, efornitine avec le nifurtimox, est une première étape parce que ça simplifie le traitement et ça diminue la toxicité. Donc c'est déjà pas mal, mais ça reste trop compliqué pour être utilisé au niveau du village, à proximité du patient, et c'est ce que l'on souhaite, et c'est l'objectif qu'on s'est fixé avec notre fondation. Donc depuis, on a sélectionné des nouveaux produits. Il y en a un qui s'appelle le fexinidazole, oublions le mot compliqué. Par contre, l'histoire du fexinidazole est intéressante, puisqu'on est parti de l'idée que dans cette famille des nitroimidazoles, il y avait des médicaments intéressants pour cette maladie. Donc on a pu identifier 700 différentes molécules qui étaient abandonnées à travers le monde dans des laboratoires publics ou privés. On a pu les tester au niveau préclinique chez l'animal. On a pu tester leur toxicité et sélectionner le meilleur candidat. Donc le fexinidazole est le meilleur candidat de cette sélection. Aujourd'hui, il est en train de finir l'étape 1 de l'essai clinique qui s'est déroulée à Paris. On espère, avant la fin de l'année, commencer les études cliniques chez les malades au Congo.
Donc en fait, vous êtes, avec votre fondation, une mini-start-up, mais à but non lucratif.
Voilà, là, on est obligé de reprendre toutes les caractéristiques de l'industrie pharmaceutique ou des entreprises de biotechnologie. D'ailleurs, on est une entreprise virtuelle, à but non lucratif, qui met ensemble des acteurs privés et publics. Parce que je voudrais insister sur une chose. Vous avez annoncé la responsabilité des laboratoires privés dès le début, mais je voudrais insister sur le fait qu'il y a aussi une lourde responsabilité publique. Parce que quand on dit recherche, quand on dit développement, nouveaux
quand
médicaments...
Quand vous dites public, c'est-à-dire volonté politique
Ce sont les gouvernements, ce sont les instituts de recherche publique, qui quand même donnent le tempo, c'est eux qui fixent les priorités de recherche.
Donc,
ils ont, là, s'il y a eu un abandon de cette recherche depuis au moins 3 décennies...
Abandon, ce que ça veut dire, avant, c'était pas le cas.
Il y avait quand même un intérêt
moins négligé.
À la période coloniale. Je vous rappelle que quand même, les populations du Nord étaient exposées à ces maladies parasitaires. Donc, il y avait un réel intérêt pour redécouvrir des médicaments. La fin de la période coloniale a débouché sur un abandon de recherche dans ce domaine-là, ou une panne de recherche. Et ce qu'on essaie de faire aujourd'hui avec d'autres, c'est de réparer un peu ce problème.
Donc pas de volonté politique, pas d'argent, pas de médicaments.
Exactement. Parce que la science, elle est là. Le savoir-faire est là. Les molécules originales ont été développées pour d'autres maladies, donc on peut les tester sur ces maladies-là. Mais il n'y avait pas la volonté nécessaire.
Il y a aussi l'exemple de la maladie de Chagas, où le médicament actuel existant qui date de l'époque coloniale est aussi toxique. Et là, vous essayez un nouveau médicament, mais aussi un traitement spécifique pour les enfants qui, eux, n'ont rien du tout.
Voilà, bon, sur la maladie de Chagas, on a identifié 2 problèmes. Un, c'est qu'aujourd'hui, dans la phase aiguë, on a des traitements aujourd'hui que pour la phase aiguë, quand il y a très proche de la transmission. Et là, pour l'instant, la population infectée sont des enfants, et ils doivent prendre des comprimés adultes. Donc, dans les dispensaires, on est obligé de couper les tablettes en 4 morceaux ou en 8 morceaux, en sachant qu'on ne savait pas la dose que l'on donne. Donc, il n'y a pas de formulation pédiatrique. Donc, le premier objectif qu'on s'est fixé, c'est de développer une formulation pédiatrique. Mais le deuxième objectif plus ambitieux, c'est de développer un traitement pour la phase chronique de cette maladie. Parce que la maladie de Chagas, elle touche à travers une fièvre, à une phase aiguë, mais après on rentre dans une phase chronique. Et 15 ans plus tard, on est atteint de maladies cardiaques. On meurt de cette maladie cardiaque. Donc en fait, l'enjeu serait de prévenir cette phase chronique qui en fait entraîne la mort. Qui passe inaperçu souvent, puisqu'on ne fait pas le diagnostic. La plupart du temps, on croit que les personnes à l'âge de 35 ans meurent d'une maladie cardiaque, alors qu'en fait, ils meurent de Chagas.
Donc c'est aussi le diagnostic, des diagnostics plus simples, etc., qui doivent être développés.
Voilà, de toute façon, dès qu'on parle traitement, il faut combiner diagnostic et médicaments, puisque les deux vont de pair, il faut des diagnostics plus simples.
Et alors, quand vous allez à la pêche à ces molécules qui pourraient soigner, vous allez aussi bien du côté de la médecine vétérinaire, que du côté de la médecine humaine, on va dire.
Il se trouve qu'une des stratégies qu'on utilise, c'est qu'on sait que les parasites touchent beaucoup les animaux. Donc s'il y a aujourd'hui une dynamique et un marché, on va dire, qui est potentiel, c'est dans le domaine de la médecine vétérinaire. Si on parle de la leishmaniose, aujourd'hui, le seul marché qui est attractif sur la leishmaniose, c'est le marché du chien, parce que dans le sud de l'Europe, il y a énormément de chiens qui sont atteints de leishmaniose. Donc, de manière très 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 opportuniste, on va regarder ce qui se passe dans la médecine vétérinaire. On négocie l'accès au
C'est terrible ce que vous nous dites là.
Oui, mais il faut être pragmatique. Ouais. Je pense que pour moi, j'ai aucun état d'âme. J'ai passé de nombreuses années sur le terrain. J'étais complètement, en tant que médecin, j'étais complètement choqué de devoir utiliser des médicaments qui ne marchent pas, qui sont toxiques, ou parfois pas de médicaments du tout. Donc pour moi, aujourd'hui, il faut être opportuniste, il faut aller le plus vite possible pour amener tous les progrès, pour utiliser les progrès de la science au service de ces populations-là. Donc il n'y a pas d'état d'âme, et c'est bien que les laboratoires nous mettent à disposition ces librairies, parce qu'elles nous font gagner un temps incroyable. Et généralement, on a des bonnes négociations. Je veux dire que c'était une des grandes inconnues lorsqu'on a créé notre fondation. Est-ce qu'on allait avoir accès à ce savoir-faire de l'industrie pharmaceutique ? Aujourd'hui, on peut dire oui, nous avons accès à ce savoir-faire. Il y a encore des négociations difficiles, mais la plupart du temps, on réussit ces négociations.
Mais quel est l'intérêt pour les laboratoires pharmaceutiques de travailler avec vous à mettre au point des médicaments qui vendront à prix coûtant ? C'est des questions d'image uniquement ?
Oui, alors il y a évidemment une question d'image vers l'extérieur. Il y a évidemment une question d'image en interne, parce que je pense que ces projets sont très appréciés par le personnel qui travaille dans l'industrie pharmaceutique. Mmh. Ils sont extrêmement contents de participer à un projet qui
va... Ça les déculpabilise
Mais c'est pas qu'une histoire de culpabiliser, parce qu'ils payent leurs personnes, n'hésitent pas à travailler plus sur ces projets-là. Il n'y a pas de problème, on a vraiment des bonnes collaborations. Et trois, il ne faut pas oublier que ces maladies... sont prévalentes dans des pays qui potentiellement représentent un marché, et on pense au futur, il y a une dynamique, les pays deviennent rentrent dans le marché mondial, et je pense qu'être présent, distribuer des médicaments dans ces pays-là, c'est préparer le futur. Donc ça je crois que les dirigeants comprennent.
Mmh. Vous parliez de l'absence de volonté politique, comment ça se passe alors du côté de la recherche publique ?
Alors, moi, je pense que l'absence de volonté politique, elle se traduit à deux niveaux. Alors, au niveau des chercheurs publics, mais là, je crois que là aussi, auprès des chercheurs, on rencontre un intérêt. Je pense que les chercheurs sont très intéressés de rejoindre ce type de projet. Mais ce qui manque, c'est l'argent. Là, en l'occurrence, au niveau public, c'est fixer des priorités au niveau financier. Et je pense que la fragilité de notre modèle aujourd'hui, c'est l'absence de pérennité au niveau du financement. Donc là, aujourd'hui, typiquement, nous souhaitons intéresser l'État fédéral suisse à investir dans ce projet-là. Parce que pour l'instant, depuis notre création, nous avons un soutien du canton de Genève qui nous a accompagnés dans la création de cette fondation et continue à nous soutenir. Nous n'avons pas obtenu ce même soutien au niveau fédéral. Donc ça, c'est un enjeu clé, parce que c'est valable pour appuyer la recherche publique en Suisse, et c'est valable pour appuyer notre projet, parce qu'il nous faut monter des partenariats autour de ces partenaires qui existent en Suisse et qui peuvent travailler avec les partenaires dans les pays en développement, qui sont des partenaires prioritaires pour le développement international au niveau suisse.
Bernard Picou, quand vous développez le premier médicament avec l'initiative pour le traitement des maladies négligées en 2007, c'est pour lutter contre le paludisme, et c'est un exemple emblématique parce que la molécule n'est pas brevetée. Et ça, dans le milieu pharmaceutique, c'est une révolution.
Voilà, alors donc là ça a été le fruit d'une négociation. Alors là, dans ce cas précis, c'est avec Sanofi Aventis, donc qui a accepté de rentrer en collaboration avec nous, à partir d'une molécule que nous avions nous-mêmes développée avec des partenaires publics-privés, avec une petite entreprise de biotechnologie et des universitaires. On a développé nous-mêmes un produit assez innovant, parce qu'on pouvait traiter le paludisme avec un comprimé par jour pendant 3 jours. Donc on avait mis ensemble l'artésunate avec l'amodiaquine, donc on avait combiné deux produits, et en plus on avait diminué le nombre de comprimés. Donc on avait quelque chose d'innovant, et on a trouvé un accord avec Sanofi qui a accepté donc le fait de ne pas avoir d'exclusivité, donc le fait de ne pas breveter, et le fait de mettre ce produit à disposition à prix coûtant. Donc deuxième garantie, d'avoir ce produit à moins $1 pour le traitement adulte et à moins de 50 cents pour le traitement enfant.
Alors qu'autrement il est vendu à...
Alors, si on l'avait laissé dans le marché courant et dans le marché privé, il serait probablement autour de 4 à 5 dollars, ce qui est excessif pour la plupart des populations africaines. Donc ça, c'était les négociations de départ. Mmh. Et aujourd'hui, ils sont en train de mettre en œuvre avec une réelle volonté, puisque on a déjà distribué 50 millions de traitements à ZAC, s'appelle à moins d'un dollar. Et pour la seule année 2010, l'objectif est de plus de 50 millions de traitements en Afrique. Donc c'est quand même un chiffre assez considérable, en sachant que c'est une maladie qui tue beaucoup.
Oui. Mais on parle donc du rôle du privé, enfin des privés de l'industrie, qui est souvent incriminé. Mais on pourrait dire, Bernard Piakoul, qu'en fait son rôle, c'est pas d'assurer la santé du monde. D'une certaine façon. Alors, quel devrait être son rôle ?
Tout à fait. Pour moi, la solution vient d'un meilleur équilibre entre les responsabilités des gouvernements, du secteur public, des organisations internationales qui doivent fixer des priorités et pour ça accompagner ces priorités avec des ressources et un certain nombre d'obligations au niveau des partenaires privés, parce que je pense qu'ils sont quand même dans un domaine qui n'est pas tout à fait, innocent.
Donc, construire un cadre légal.
Un cadre légal.
À quel niveau ?
Alors, c'est une chose qui est sur l'agenda de l'Assemblée mondiale de la santé, donc c'est extrêmement important que ce soit discuté au niveau de l'Assemblée mondiale de la santé, que ce cadre fixe un peu les règles du jeu. Il faut savoir qu'on n'est pas dans un domaine qui n'est pas régulé, hein, parce qu'en fait, le brevet, c'est une grande régulation. Tout autour, les activités pharmaceutiques sont extrêmement régulées aussi par toutes les autorités réglementaires qui fixent les normes. Et enfin, troisième, les acteurs de recherche sont stimulés par les fonds, les grands fonds de recherche, hein, au niveau suisse, au niveau européen, au niveau américain. Ce sont quand même les fonds publics qui fixent les priorités. Donc on n'est pas démunis d'outils pour redonner une dynamique dans ce domaine-là. Simplement, là, il faut des décisions au niveau des dirigeants. Et si on ne passe pas par ce niveau-là, je ne pense pas qu'on aura une transformation du paysage. Et ce que l'on souhaite avec nos modèles, c'est de montrer que c'est possible et qu'au final, il y a une transformation du cadre politique.
Mais justement, dernièrement, l'Organisation mondiale de la santé, elle a été mise en cause à cause d'un rapport justement sur les maladies négligées et concernant la recherche de financement innovant, hein, pour développer cette recherche. Il n'a pas été fait mention donc du modèle que vous développez, c'est-à-dire la possibilité de ne pas breveter, de la possibilité de vendre à prix coûtant, de découpler recherche et prix du médicament. Comment ça se fait que ça n'a pas été écrit dans ce rapport ?
Écoutez, ce rapport auquel vous faites allusion, c'est limité à essayer d'arranger un peu le système en place, de trouver un petit peu des solutions à la marge pour couvrir ces besoins très spécifiques. Et a mis complètement de côté des propositions qui sont beaucoup plus, on va dire, révolutionnaires, qui essaient de trouver des solutions, on va dire, pérennes, qui permettrait de passer d'une priorité à l'autre. Parce que
c'est du coup par coup pour le moment. Donc
oui, pour
l'instant, c'est ça l'objectif, c'est de trouver un financement
problème,
pérenne.
On essaie de trouver une solution, ce qui est mieux que dans le passé, puisque c'est mieux que rien. En tout cas, moi, je suis satisfait de cet aspect-là. Mais ce n'est pas suffisant. Donc pour ça, il faut un cadre plus ambitieux et qui permettra de répondre aux problèmes suivants. Parce que on sait que la nature est très, très maligne, et notamment dans le domaine des maladies infectieuses, que il y a 30 ans, on parlait que c'était la fin des maladies infectieuses. Aujourd'hui, bon, à travers le sida, on a bien fait la démonstration que c'était pas la fin. Bien au contraire, on se trouvait confronté à des sacrés enjeux. Et là, je n'hésite pas à dire que le sida, aujourd'hui, dans le sud, et en particulier en Afrique, est une maladie négligée par rapport à la recherche, parce qu'on n'est pas en train de chercher des solutions adaptées à cette situation gravissime, parce que l'immense majorité des malades atteints de sida et des enfants atteints de sida sont aujourd'hui en Afrique, et il n'y a rien qui est fait pour eux.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de médicaments développés pour les enfants. Il y a 2 millions d'enfants qui vont mourir du sida. Il n'y a pas de médicaments développés pour eux, alors qu'on
pourrait
le faire.
Excusez-moi d'utiliser le terme bricolage, mais on bricole avec les médicaments qui ont été développés pour la population cible au nord. On essaie de bricoler alors qu'il faut quelque chose qui soit adapté à cette crise. Il y a 100 enfants atteints de sida dans toute l'Europe. Donc il n'y a pas de raison de s'affoler, on utilise des traitements très spécifiques, très sophistiqués. Et en parallèle, en même temps, il y a 2 millions d'enfants atteints en Afrique. Donc ça pose un problème beaucoup plus compliqué et il faut une réponse spécifique à ce problème-là. Et aujourd'hui, personne ne la cherche.
Pourtant, en 2001, enfin, si on revient un peu historiquement, l'Afrique du Sud, c'est à ce moment-là où elle remporte un procès vraiment légendaire hein, contre 39 laboratoires pharmaceutiques pour pouvoir utiliser des médicaments génériques pour soigner le sida. C'est quand même là où, tout d'un coup, ça a basculé, les laboratoires pharmaceutiques se sont rendus compte, les gouvernements se sont rendus compte qu'on ne pouvait plus laisser une situation pareille. Qu'est-ce qu'il faut encore pour que ça change ?
Mais je crois qu'en en Afrique du Sud, et j'y étais, je crois que c'est une étape fondamentale, puisqu'on a enclenché une dynamique différente. C'est-à-dire que je crois qu'en Afrique du Sud, et puis il y a eu bien d'autres manifestations, mais c'est un peu caricatural, et c'est l'endroit où ça s'est passé. On s'est dit, on ne peut pas continuer à laisser la majorité la population atteinte de maladies en dehors du marché. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible de dire ça. Donc il y a une prise de conscience manifeste. Mais bien entendu, les questions qu'on a soulevées en Afrique du Sud, elles sont beaucoup plus complexes. Elles nécessitent une série de décisions à un niveau politique et une série de nouvelles orientations. Et on n'y est pas encore en ce qui concerne la recherche. Donc là il faut des étapes supplémentaires.
Donc vous, ce que vous voudriez, c'est que finalement, dans ce rapport de l'OMS, qui soit signé par les États membres, on dise « le médicament pour certaines maladies est un bien public ».
Alors ça, c'est la grande orientation, mais ça, c'est une vision politique. Il faut que ça se traduise dans les actes, il faut que ça se traduise dans un cadre légal et dans aussi un cadre de financement pérenne, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. La recherche coûte beaucoup moins cher dans le cadre. Notre initiative coûte beaucoup moins cher que les chiffres annoncés par l'industrie pharmaceutique. On a trouvé aussi un modèle aussi de développement qui est selon moi coût efficace, mais il y a cependant on n'a pas les ressources nécessaires pour le pérenniser.
Et là, les ressources, c'est uniquement parce qu'il y a des idées hein, de financement pour financer cette recherche.
Alternative, vous voulez
voilà,
dire.
Voilà, une taxe éventuellement sur les billets d'avion. Enfin, il y a des
voilà,
choses qui circulent.
Voilà, des modèles de nouveaux financements voient le jour. Alors, la plus originale pour l'instant, ça a été cette taxe sur les billets d'avion qui a donné la création de l'United. C'est un exemple extrêmement intéressant. Mais on parle pour le développement international d'autres taxes hein, sur les transactions financières, etc. etc. Et c'est de ce côté-là, sans doute, qu'il faut se tourner. Parce que si on reste dans le schéma classique, on aura nos limites. Mais enfin, ce schéma classique investit beaucoup d'argent dans la recherche. Donc, il suffirait qu'une faible proportion, ces grandes sommes, soient orientées vers les priorités de santé publique pour qu'on change cette dynamique.
Donc, quelques pourcents de plus sur le montant du budget de recherche qui sont...
Ça changerait la donne.
Donc, il faut engager des gens très forts dans le lobbying politique, Bernard Pécoul.
Oui, tout à fait. Je pense que...
Mais vous semblez bien formé déjà, hein.
Oui, tout à fait, mais on est quand même très isolé. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de la maladie du sommeil sur vos antennes. Donc, on est vraiment sur un domaine extrêmement isolé. Et là, je pense que le mot oublié ou maladie négligée, je crois que la caractéristique principale, c'est qu'on en parle très peu.
Dans les médias aussi.
Très bien, de l'urgence et de la nécessité humaine, tout simplement, à considérer le médicament comme un bien public. C'est sur la ligne d'horizon. Bernard Pécoul, on l'a bien compris, c'est en tout cas ce qu'on retient de ce plaidoyer en faveur de la recherche et de la production de médicaments non brevetés pour les plus pauvres. On a mesuré l'enjeu et il est de taille. Merci Bernard Pécoul d'avoir fait escale à Babylone.
Merci beaucoup.
Babylone avec le temps.
vous accompagner sur la route de Babylone. Il y avait Cécile Guérin, Philippe Zibung à la technique, Louisa Nazarieff à Genève, Dominique Stalder à Paris et Bastien Meucli à Lausanne. Nicole Corpazzo gère, elle, l'assistanat de l'émission et nos pages internet où vous pouvez nous écrire, vous pouvez écouter ou podcaster nos émissions. Babylone est une production de David Collin et Nicole Duparc. Demain, dans Babylone, une table ronde. Elle sera menée par Annick Chouin sur un sujet bien délicat. Les restes humains ont-ils leur place dans les musées? La restitution de têtes maories relance un débat passionné. Babylone s'en fera l'écho. Ce sera demain. Voilà, vous pouvez nous réécouter, vous le savez, tous les jours à 19h quand vous voulez en podcastant nos émissions à l'adresse internet suivante babylone.rsr.ch. Juste après les infos de 10h, c'est à l'enseigne de l'humeur vagabonde que la matinée se poursuit. Espace de 10h.